Vous écoutez, on lit pour vous.
Congés parentaux. Un dossier d'Annabelle Caillou et Clémence Pavic, paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir. Le congé parental est de plus en plus masculin, mais reste largement féminin. Les pères québécois sont plus nombreux que jamais à prolonger leur absence au travail pour s'occuper de leur nouveau-né depuis l'instauration, en 2021, d'un incitatif au partage des prestations parentales. Il reste toutefois une minorité à le faire, le congé parental étant encore souvent perçu comme une extension du congé maternel. Sans ces 4 semaines supplémentaires, je n'aurais pas pris autant de congés. Financièrement, ça aurait été difficile, ça aurait fait trop de jours non payés pour ma compagne, raconte Diego Alejandro Ellanos, devenu père l'été dernier. Après ses 5 semaines de congé de paternité auprès de sa fille, il a vite constaté que ce serait insuffisant. Il a finalement pris 8 semaines de congé parental, encouragé par l'incitatif prévu dans la réforme du régime québécois d'assurance parentale, RQAP. Depuis 2021, si les deux parents prennent chacun au moins 8 semaines de prestations parentales sur les 32 prévues dans le régime de base, le couple reçoit 4 semaines additionnelles à utiliser librement. Le régime de congé parental québécois de base. Congé de maternité, 18 semaines. Congé de paternité, 5 semaines. Congé parental, 32 semaines partageables. Revenus remboursés. Les parents touchent 70 % de leurs revenus. Le revenu maximum admissible est de 103 000 $ en 2026 lors des semaines de congés qui leur sont exclusivement réservées. Pour les prestations parentales partageables, les 7 premières semaines sont remboursées à 70 % du revenu, les 25 suivantes à 55 % du revenu. À noter que certains employeurs compensent une partie du salaire, mais ce n'est pas le cas de tous. Francis Villard et sa conjointe ont aussi voulu profiter de ce bonus à la naissance de leur deuxième fille en 2024. Sans les 4 semaines additionnelles, je ne pense pas qu'on l'aurait fait. Enlever 8 semaines à ma conjointe, ça aurait été trop, dit-il, soucieux de lui laisser le temps de récupérer. Avec du recul, il se réjouit de leur décision. C'est le fun d'être plus présent dans les débuts de vie de son enfant, de participer davantage à son développement, dit-il. Même constat pour Diego Alejandro Ellanos. Ces semaines additionnelles ont facilité son entrée dans son rôle de père, mais lui ont aussi permis de soutenir davantage sa conjointe dans les tâches quotidiennes. Elle a porté le bébé pendant 9 mois, a accouché, se remet physiquement et émotionnellement, tout en allaitant, ce qui est difficile pour le corps, souligne-t-il. Des pères plus présents. L'incitatif au partage a convaincu de nombreux parents de diviser plus équitablement leur congé parental. Selon les données du Conseil de gestion de l'assurance parentale, CGAP, obtenues par Le Devoir, 32 % des couples admissibles en 2023 répondaient aux critères pour obtenir ce bonus de 4 semaines. Il n'était que 8 % à y prétendre en 2020, avant son entrée en vigueur. Les chiffres sont super encourageants. L'incitatif fonctionne et contribue à redéfinir les rôles parentaux. Ça vient démontrer que la parentalité est une responsabilité partagée, affirme Camille Tassé-Tétrault, conseillère en communication au CGAP. Les données préliminaires de 2024 et 2025 montre d'ailleurs une hausse continue de l'utilisation du congé parental par les pères, indique-t-elle. Des résultats qui étonnent Sophie Mathieu, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques familiales. Les recherches démontrent que 2 facteurs sont cruciaux pour encourager l'égalité des genres dans la prise de congé à la naissance, dit-elle. Il faut que ce soit payant. Donc, un taux de remplacement du salaire à plus de 75 %, et il faut que le congé soit non transférable. L'incitatif au partage, c'est l'inverse, mais ça marche, souligne-t-elle avec étonnement. y voyant un réel désir d'implication des pères québécois. Des progrès, mais un partage encore inégal. Malgré cette progression, la présence des pères demeure brève aux côtés des nouveaux-nés. Ceux qui prennent des prestations utilisent en moyenne 10,3 semaines, une hausse modeste par rapport à une moyenne de 8,5 à 9 semaines observée entre 2006 et 2020. Les données du CGAP montrent qu'à l'inverse, les mères prennent en moyenne 45 semaines, et ce depuis 2006. C'est un peu le drame du RQAP. On a créé une norme où les hommes prennent leur congé de paternité et on a célébré ça. Mais dans les faits, ça reste hautement inégalitaire, constate Sophie Mathieu. Selon elle, le congé parental continue d'être perçu comme une extension du congé de maternité, ce qui pose problème. Les jeunes pères n'osent pas prendre congé au-delà des 5 semaines de paternité, car ils ont l'impression de voler du temps qui devrait revenir à la mère. Cette perception persiste dans les discussions familiales, amicales ou professionnelles et freine leur implication. Les employeurs ne s'attendent pas à ce que les pères prennent plusieurs mois de congé. Au-delà du congé de paternité, ça peut être mal vu. Alors, certains se retiennent, note la professeure. Sans parler de l'écart salarial toujours important entre les hommes et les femmes, en 2023, le revenu hebdomadaire moyen des pères était 24 % plus élevé que celui des mères, selon le CGAP. Puisque la majorité des prestations parentales remplace 55 % du revenu, certains hésitent à prolonger leur absence, craignant une baisse trop importante du revenu du couple. Pour diminuer ces inégalités, il faut encore plus encourager les pères à prendre congé. L'incitatif au partage n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne va pas assez loin. Il faut donner plus de congés exclusifs aux pères, comme on l'a fait en créant le RQAP en 2006. Les effets seront bien plus grands et bénéfiques pour tous. Et si les pères avaient davantage de congés pour s'occuper de leur nouveau-né? Et si on accordait aux pères un congé de paternité égal à celui des mères? L'idée séduit plusieurs chercheurs et de plus en plus de parents qui y voient un levier essentiel pour transformer les normes familiales et réduire les inégalités. Or, malgré les surplus du régime québécois d'assurance parentale, RQAP, Québec a préféré réduire les cotisations des travailleurs en 2025 plutôt que de bonifier ses prestations. Une occasion manquée, déplorent plusieurs. Si on veut que les hommes s'impliquent, il faut leur donner un plus long congé de paternité. C'est comme ça qu'on change les comportements. Est-ce qu'il devrait être égal au congé de maternité? Oui, c'est l'idéal à viser, lance sans embâge Sophie Mathieu, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques familiales. Raymond Villeneuve, du Regroupement pour la valorisation de la paternité, partage son opinion. À l'instauration du RQAP en 2006, beaucoup de gens pensaient que 5 semaines de congé pour les pères, ça ne marcherait pas. Ce serait trop, se souvient-il. Mais rapidement, ça s'est imposé comme la norme sociale. 20 ans plus tard, c'est le temps d'en faire plus. En 2005, avant l'entrée en vigueur du RQAP, seulement 28 % des pères québécois avaient recours au régime fédéral d'assurance-emploi pour toucher des prestations de paternité. L'introduction du congé de paternité a fait bondir leur participation à 56 % en 2006. Elle atteint désormais 73 % selon les plus récentes données, celles de 2023. Vous écoutez « Congés parentaux », un dossier d'Annabelle Caillou et Clémence Pavic paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir. Une volonté d'en faire plus. Aujourd'hui, les pères ont la volonté de s'impliquer davantage. Plusieurs d'entre eux, rencontrés par Le Devoir, confirment le changement de mentalité qui s'opère depuis plusieurs années. Contrairement aux membres des générations précédentes, ils se voient moins dans un simple rôle de pourvoyeur et veulent passer du temps en famille lors de l'arrivée d'un nouveau-né. Anthony Mignot, par exemple, a pris l'entièreté du congé parental lorsqu'il est devenu père pour la deuxième fois l'an dernier. En étant plus présent, on développe un lien particulier avec son enfant. On participe davantage à son développement. Il y a aussi un meilleur partage des tâches dans le couple et une meilleure cohésion, constate-t-il. Il note par ailleurs que le fait de rester seul avec sa fille a permis d'enlever une charge des épaules de sa conjointe et de lui libérer du temps pour elle et son travail. « Je suis devenu la personne ressource par défaut pour ma fille. C'est vers moi qu'elle se tournait. » Quand le partage des congés est plus égalitaire entre les parents, les bénéfices se font sentir à long terme, souligne Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités. La prise du congé paternel a un effet positif sur le partage des tâches domestiques, et cet effet perdure, même plusieurs années après que le congé a été pris, indique-t-il en se basant sur une récente étude danoise. Sophie Mathieu abonde dans ce sens. C'est bon pour le développement des enfants, c'est bon pour développer les compétences parentales des pères. C'est aussi bon pour les femmes qui seront moins à risque de discrimination à l'embauche et pourront plus vite retourner au travail. Et c'est bon pour le couple. En recherche, c'est rare qu'on ait des consensus très forts, mais sur l'effet du congé de paternité, il n'y a pas de débat. Une occasion manquée. Pourtant, à l'été 2025, le gouvernement caquiste a annoncé qu'il baisserait de 8 % les cotisations au régime en 2026, avant de finalement annoncer à l'automne que la diminution serait plutôt de 13 %. La raison? Les coffres du régime, financés à même les cotisations des travailleurs et des employeurs, enregistrent des surplus depuis plusieurs années, alors que le nombre de naissances diminue. Ça a été une occasion manquée à 100 %, déplore Mme Mathieu. Et tout ça pour sauver une coupe de piastres par personne. J'ai de la misère à comprendre. M. Villeneuve partage cette déception. Avec une fraction des économies réalisées par les baisses de cotisations, on pourrait faire des choses extraordinaires pour le congé de paternité et pour le deuil périnatal. Selon le gouvernement, la récente baisse des cotisations dégagera une économie d'environ 390 millions de dollars pour les travailleurs et les employeurs cette année. M. Boucher calcule que cette marge de manœuvre aurait largement permis de doubler le congé de paternité pour le faire passer de 5 à 10 semaines. Il estime qu'une telle mesure aurait coûté environ 200 millions de dollars en 2026. Et cette mesure se ferait à coût nul pour l'État, rappelle M. Villeneuve. Ça ne coûte rien aux finances publiques. Le RQAP est un régime autosuffisant, rappelle-t-il. On se targue de dire que le Québec est l'endroit où les congés parentaux sont les plus avancés en Amérique du Nord. Mais c'est facile de dire qu'on est les meilleurs quand on se compare au pire, les États-Unis. On pourrait faire tellement mieux, souligne Sophie Mathieu. Un anniversaire amer pour le RQAP, dont le Conseil est aboli par Québec. Quoi retenir? Le régime québécois d'assurance parentale, RQAP, fête ses 20 ans, mais l'abolition du Conseil de gestion crée des craintes de stagnation. Le Conseil de gestion, qui conseille sur les améliorations du RQAP, disparaît dans une restructuration gouvernementale. L'économie de 1,7 million de dollars est vue comme négligeable par Sophie Mathieu, professeure à l'Université de Sherbrooke. Le régime québécois d'assurance parentale, RQAP, célèbre ses 20 ans cette année. Un anniversaire toutefois terni par l'abolition imminente de son conseil de gestion, dont la mission était d'étudier les pistes d'amélioration du régime. Des intervenants du milieu qui plaident pour sa bonification craignent qu'il fasse du surplace. C'est la pire décision des 30 dernières années concernant le soutien aux familles, dit d'emblée Sophie Mathieu, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques familiales. Québec a annoncé en novembre dernier un vaste traitement choc visant à réduire la bureaucratie et à réaliser des économies, notamment par la fusion ou l'abolition de plusieurs organismes gouvernementaux. Parmi les entités touchées figure le Conseil de gestion de l'assurance parentale, CGAP, dont la disparition transférera la gestion du régime québécois d'assurance parentale, RQAP, à Retraite Québec. Le CGAP joue le rôle de fiduciaire du RQAP depuis sa création en 2006. Formé par des représentants du milieu des travailleurs et des employeurs, il a notamment pour mission de suivre l'évolution du marché du travail et des besoins des familles afin de recommander au gouvernement des améliorations au régime. Au fil des années, le CGAP a piloté plusieurs avancées majeures. Parmi les plus récentes, la possibilité d'avoir un revenu d'emploi partiel sans perdre ses prestations, le bonus de 4 semaines pour les couples qui partagent plus équitablement le congé parental, ou encore l'augmentation des semaines de congé pour les parents de jumeaux. Une perte d'expertise? C'est un joyau en Amérique du Nord. On est les seuls à avoir ça, souligne Raymond Villeneuve, le directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, qui s'est rendu en commission parlementaire pour l'étude du projet de loi 7, s'explique mal la disparition du CGAP. C'est une organisation qui est très compétente, très pertinente, très utile socialement, ajoute-t-il. Les experts interrogés par Le Devoir s'inquiètent surtout de la perte d'expertise qu'entraînera la disparition du CGAP. Cette petite société d'État-là a fait progresser le Québec parce qu'elle est connectée sur tous les cercles internationaux. Elle voit ce qu'il se fait de mieux ailleurs pour recommander au gouvernement des modifications du RQAP, note Sophie Mathieu. Elle craint un recul du soutien aux familles à l'avenir, estimant que Retraite Québec n'a pas l'expertise nécessaire pour remplacer le Conseil dans cette mission d'écoute et d'innovation. Moins catégorique, Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités, croit que le gouvernement pourra toujours améliorer le régime. Il regrette toutefois lui aussi qu'avec la disparition du Conseil, on perde cet arrimage fort avec le milieu de la recherche puis de la société. Un élément essentiel, selon lui, pour développer les politiques publiques. De son côté, le ministère de l'Emploi affirme que l'abolition du Conseil ne ferme pas du tout la porte à d'éventuelles améliorations au régime. Dans un courriel au Devoir, il soutient que Retraite Québec pourra compter sur l'expertise des employés du CGAP qui seront intégrés à ses équipes. Reste qu'il n'y aura plus de conseil d'administration indépendant pour jouer le chien de garde et s'assurer spécifiquement de la bonne gestion du fonds, réplique Mme Mathieu. De la poudre aux yeux. Le ministère de l'Emploi défend sa décision en soulignant que l'abolition du conseil permettrait d'économiser environ 1,7 million de dollars par année et que cette somme serait réinvestie dans le fonds d'assurance parentale. C'est une goutte d'eau, déplore Sophie Mathieu. Selon la professeure, cette économie n'en est pas une pour les finances de l'État, puisque le régime est financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs. C'est de la poudre aux yeux. On abolit une structure qui permet de l'innovation pour faire une économie qui n'existe pas. C'est très difficile à comprendre, conclut-elle. C'était Congé parentaux, un dossier d'Annabelle Caillou et Clémence Pavic, paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir.
Les Québécois ont-ils trouvé la recette du bonheur? Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 19 mars 2026 dans la presse. En matière de bonheur, le Canada est vraiment formé de deux solitudes. Les Québécois forment l'un des peuples les plus heureux au monde, tandis que le reste des Canadiens, particulièrement les jeunes, sont de moins en moins heureux, révèle le rapport mondial sur le bonheur. Chaque année, des chercheurs universitaires classent les peuples du monde entier, 147 pays, selon le niveau de bonheur de leurs citoyens, qui auto-évaluent leur qualité de vie au moyen d'un sondage de la firme Gallup. Fait à noter, ce classement est révélateur du niveau de bonheur des peuples, mais il ne reflète pas nécessairement leur qualité de vie. Par exemple, des pays comme la France, 35e rang du bonheur, l'Italie, 38e, et le Japon, 61e, ont un niveau de bonheur faible parmi les pays riches. Mais ils ont une excellente qualité de vie et une espérance de vie en santé très élevée. Pour la 9e année de suite, les Finlandais forment le peuple le plus heureux, selon le rapport annuel dévoilé jeudi le 19 mars 2026 par les chercheurs du Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies. Officiellement, le Québec ne fait pas partie de ce classement du bonheur dominé par les 5 nations nordiques européennes, toutes classées dans le top 6. Mais les chercheurs nous ont fourni les résultats du Québec et ceux du reste du Canada. Avec un indice de bonheur de 7,255 sur 10, le Québec arriverait au 5e rang du classement ex aequo avec la Suède. Le Canada, Québec compris, prend le 25e rang derrière les États-Unis au 23e rang. C'est la première fois que les Canadiens sont exclus du top 20 mondial et qu'ils sont moins heureux que les Américains. Cette baisse s'explique par les résultats obtenus dans le reste du Canada, dit John Helliwell, professeur émérite d'économie de l'Université de la Colombie-Britannique et l'un des auteurs du rapport mondial sur le bonheur. Le Canada sans le Québec a un indice de bonheur de 6,589 sur 10. Ce qui lui conférerait le 35e rang, tout juste devant les Français. Ce qui fait la différence. Comment expliquer ces deux solitudes en matière de bonheur? Les chercheurs ont plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, les Québécois, seule nation francophone en Amérique du Nord, forment une société où le sens du collectif reste important et où le filet social est bien développé. En ce sens, on ressemble un peu aux pays nordiques européens, comme la Suède et la Finlande, qui trônent chaque année au sommet du classement. De façon générale, plus les sociétés sont riches, plus elles sont heureuses, s'il n'y a pas de guerre. Parmi les pays riches, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Japon, ce qui semble faire la différence en matière de bonheur, c'est le sentiment d'appartenance au groupe et la confiance à l'égard des autres. Dans ces sociétés, les gens se font confiance. Ils font confiance aux institutions et peuvent s'unir pour régler des problèmes, nous précise Christopher Barrington Lee, professeur en économie à l'Université McGill. Il y a une cohésion au sein de la société québécoise, et peut-être aussi que l'un des facteurs qui cimentent cette société, c'est ce sentiment de vivre sur une île francophone en Amérique du Nord, ajoute le professeur, qui a étudié les écarts de bonheur entre le Québec et le Canada. Une autre hypothèse. Le niveau de richesse. De 1985 au début des années 2000, les Québécois se disaient moins heureux que les autres Canadiens. Or, à mesure que l'écart de richesse du Québec avec l'Ontario s'est rétréci, le moral des Québécois s'est amélioré. N'empêche, depuis 2 ans, le niveau de bonheur des Québécois, moins 1%, et des autres Canadiens, moins 2,7%, a légèrement diminué. La faute aux réseaux sociaux ? Or, la chute est beaucoup plus marquée au pays si on prend un recul d'une quinzaine d'années. Dans le rapport mondial sur le bonheur, le Canada est passé au 5e rang en 2011, au 15e rang en 2023, puis au 25e rang en 2025. C'est l'une des chutes de bonheur les plus importantes pour un pays riche. L'un des principaux facteurs de cette chute, les jeunes Canadiens sont de moins en moins heureux. Ce n'est pas juste une petite grisaille. Parmi les 136 pays étudiés pour cette question, le Canada est l'un des 3 où le niveau de bonheur des moins de 25 ans a le plus diminué depuis 2011. La baisse au Canada est de 1,138 points sur une échelle de 10. C'est énorme. Les jeunes Québécois sont plus heureux que les autres jeunes Canadiens, mais le niveau de bonheur des jeunes a baissé partout au pays. Certains chercheurs soupçonnent que c'est, en partie, à cause des réseaux sociaux. Car les adolescents de 15 ans, qui passent énormément de temps sur ces réseaux, se disent moins heureux que les autres, selon une étude effectuée dans 50 pays. Les 4 pays riches, où les jeunes de moins de 25 ans ont vu leur niveau de bonheur diminuer de façon plus marquée depuis 2011, sont le Canada, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce sont des pays où l'on parle majoritairement anglais. Si vous êtes jeune et que vous vivez dans un pays qui parle anglais, votre niveau de bonheur diminue, dit le professeur Christopher Barrington Lee. L'une des hypothèses, poursuit-il, c'est la toxicité du contenu des réseaux sociaux en anglais aux États-Unis qui se propage dans les autres pays anglophones. On polarise les gens et on crée du contenu stressant pour garder les utilisateurs engagés. La solution est-elle de bannir l'usage des réseaux sociaux pour les adolescents comme l'a fait l'Australie pour les moins de 16 ans? Peut-être, mais pas nécessairement. Les adolescents les plus heureux sont ceux qui utilisent les réseaux sociaux moins d'une heure par jour selon l'étude. Ceux-ci sont même plus heureux que ceux qui ne passent pas de temps du tout sur les réseaux sociaux. La modération a donc bien meilleur goût. L'enjeu, c'est que les adolescents passent en moyenne 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Or, plus ils passent de temps sur les réseaux sociaux, plus le niveau de bonheur des adolescents diminue, conclut-on. Au point que la majorité des étudiants universitaires aux États-Unis souhaiteraient que les réseaux sociaux n'existent pas, selon l'étude. Le niveau de bonheur des adolescents varie aussi selon les usages qu'ils font des réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux où le contenu est contrôlé par un algorithme, par exemple TikTok, Instagram, X, Facebook, a tendance à diminuer le niveau de bonheur, tandis que les réseaux qui facilitent les contacts sociaux ont l'effet contraire. Dans leur rapport dévoilé jeudi, les chercheurs du rapport mondial sur le bonheur se sont concentrés sur les conséquences des réseaux sociaux sur les adolescents. Les mêmes conclusions s'appliquent-elles pour les adultes? Christopher Barrington Lee soupçonne que oui, particulièrement pour les aînés. Quand un algorithme veut prendre le contrôle de votre attention pour faire de l'argent, c'est généralement mauvais pour vous, surtout si vous n'êtes pas capable de garder le contrôle. Si l'algorithme remplace des interactions humaines, vous êtes en train de manquer quelque chose de bien. Le professeur John Halliwell doute que les réseaux sociaux puissent expliquer à eux seuls la baisse importante du niveau de bonheur chez les jeunes Canadiens hors du Québec. La crise du logement et le marché du travail jouent-ils un rôle? Probablement. L'une des solutions à ce pessimisme pourrait être de bâtir des communautés plus unies. Les gens aiment vivre dans des communautés où l'on veille les uns sur les autres, dit John Halliwell. C'était « Les Québécois ont-ils trouvé la recette du bonheur ?» un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 19 mars 2026 dans la presse.